Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Millon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 23 août 2024. En Libye, l'ONU s'est dit préoccupée par une série de mobilisations de la part de factions armées ayant entraîné une détérioration de la situation politique et militaire. Au Soudan, les deux parties au conflit acceptent de garantir l'accès humanitaire via deux routes à l'issue des discussions en Suisse. La RDC a débloqué 10 millions de dollars américains pour la riposte au Mpox.
C'est pas suffisant, bien sûr. Vous imaginez bien que rien que les vaccins, nous, pour l'instant, on a fait un plan à peu près 3 500 000 doses de vaccins. Et rien que ça, ça nous amène à plusieurs centaines de millions de dollars.
Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la RDC, va préciser la destination de ces fonds dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump engagent le sprint final vers la présidentielle du 5 novembre. Le premier ministre indien Narendra Modi, en visite à Kiev, a appelé l'Ukraine et la Russie à s'asseoir sans délai à la table de négociation. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La mission des Nations Unies en Libye se dit préoccupée par les informations faisant état de la mobilisation de forces à Tripoli et de menaces de recours à la force pour résoudre une crise concernant le contrôle de la Banque centrale. Le point avec Nani Talani.
La démonstration de puissance militaire et les affrontements armés dans des quartiers densément peuplés sont inacceptables et menacent la vie et la sécurité des civils, a déclaré la mission onusienne. La situation politique et militaire en Libye s'est rapidement détériorée au cours des deux derniers mois, avec notamment une série de mobilisations de la part des factions armées, a affirmé Stéphanie Coury, chef adjoint de la mission au Conseil de sécurité de l'ONU. Les dernières tensions sont en effet apparues à la suite des efforts déployés par des factions politiques pour évincer le gouverneur de la Banque centrale libyenne, Sadiq Al-Kabir, pour ensuite prendre le contrôle de la dite banque. Les tensions se sont accrues après la décision du chef du conseil de la présidence de remplacer M. Kabir et le conseil d'administration, décision rejetée par le Parlement. Ce vendredi, Mohamed Al-Chokri, l'homme proposé pour remplacer M. Kabir, a déclaré dans un communiqué qu'il n'accepterait le poste que si les deux organes législatifs rivaux du pays le soutenaient.
L'ancien ministre érythréen des Finances, Beran Abrehé, devenu un farouche opposant au président Isaias Afwerki, est mort en prison, a annoncé cette semaine une organisation de défense des droits humains. M. Beran, 79 ans, qui était emprisonné depuis 6 ans, sans qu'aucune accusation ne lui soit notifiée, est mort lundi, selon un communiqué de l'ONG Human Rights Concern Eritrea, publié jeudi. Il avait été arrêté en septembre 2018, peu après la publication d'un livre très critique du régime érythréen. Au Soudan, les parties au conflit ont accepté de garantir un accès sûr et sans entrave aux humanitaires à travers deux routes clés. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les médiateurs à l'issue des discussions en Suisse. Le point avec Rosine Monizero.
Ces discussions ont été lancées par les États-Unis le 14 août en Suisse en vue d'élargir l'accès humanitaire, établir un cessez-le-feu et mettre en place un mécanisme de contrôle et de vérification pour garantir la mise en œuvre de tout accord. Seuls les FSR ont fait le déplacement en Suisse, l'armée soudanaise contestant le format des pourparlers. Mais l'envoyé spécial américain pour le Soudan a assuré que les médiateurs étaient restés en contact régulier avec l'armée par téléphone. L'ensemble de médiateurs qui étaient réunis sous l'acronyme ALPS, Aligned for Advancing Life Saving and Peace in Sudan Group, a obtenu des deux parties au conflit la garantie d'un accès humanitaire sûr et sans entrave à travers deux artères clés. À l'ouest, le point de passage frontalier d'Adre vers le Darfour et la route de Daba qui permet d'accéder au nord et à l'ouest depuis Port-Soudan, a-t-il annoncé dans un communiqué. Des camions d'aide sont en route pour apporter des secours aux victimes de la famine dans le camp de Zamzam et dans d'autres régions du Darfour, poursuit le communiqué. Ces routes doivent rester ouvertes et sûres afin que nous puissions acheminer l'aide au Darfour. La nourriture et la famine ne peuvent être utilisées comme armes de guerre, ajoute le communiqué.
Le Gabon a confirmé un premier cas de Mpox détecté chez un voyageur de retour d'Ouganda, pays touché par un variant de ce virus récemment paru en Afrique, dans un communiqué officiel publié ce jeudi. Selon ce communiqué, le cas de Mpox a été détecté chez un homme de 30 ans vivant au Gabon et ayant séjourné dans les deux dernières semaines en Ouganda, pays impacté par l'épidémie. Le Kenya a également signalé aujourd'hui un deuxième cas confirmé de Mpox.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La vice-présidente américaine Kamala Harris a accepté hier à Chicago l'investiture des députés démocrates, des délégués démocrates, au terme d'une convention marquée par plusieurs discours. Son challenger républicain, l'ancien président Donald Trump, se rend ce vendredi à Las Vegas, dans le Nevada, puis en Arizona. Nathalie Barge.
Lors de son discours de clôture, Kamala Harris a détaillé sa vision pour l'Amérique et a lancé un appel à l'unité. Accusant Donald Trump de vouloir ramener les États-Unis en arrière, elle a dit vouloir réformer le système d'immigration qu'elle juge défaillant. Sur la guerre entre Israël et le Hamas, elle a dit qu'elle serait en mesure d'impulser un accord de trêve et de libération des otages et s'est prononcée pour l'autodétermination des Palestiniens. Pendant ce temps, Donald Trump lui a reproché sur son réseau Truth Social de contribuer au déclin des États-Unis. Les représentants de chaque État américain ont pris un à un la parole, avec en fond sonore une chanson représentant leurs États respectifs. Le couple Obama s'est également exprimé en critiquant ou ridiculisant Donald Trump. Des artistes étaient de la partie comme Stevie Wonder et la chanteuse Pink. Donald Trump se rend ce vendredi dans deux États clés, à Las Vegas dans le Nevada, où il va promettre des baisses d'impôts, puis en Arizona pour un meeting de campagne en compagnie d'un invité surprise. Le candidat indépendant Robert Kennedy, crédité de 5% des intentions de vote, devrait se retirer de la course et appeler à voter pour Donald Trump. Investis par leurs partis respectifs, Kamala Harris et Donald Trump s'engagent ainsi dans le sprint final vers la présidentielle du 5 novembre. Le premier débat entre les deux candidats aura lieu le 10 septembre en Pennsylvanie.
Les discussions au Caire autour d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza ont été constructives et des progrès ont été réalisés, a assuré aujourd'hui la Maison-Blanche qui appelle les partis à travailler ensemble. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que les discussions se poursuivaient avec le directeur de la CIA, Bill Burns, et l'émissaire américain au Moyen-Orient, Breck McGurk. Washington a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de sanctions visant au total 400 entités et individus, tant en Russie qu'à l'étranger, parmi lesquels une soixantaine d'entreprises technologiques de la défense dont les produits et services permettent à la Russie de soutenir son effort de guerre en Ukraine. Le premier ministre indien Narendra Modi a été accueilli par le président ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd'hui à Kiev dans le cadre d'une visite historique censée faire avancer les efforts diplomatiques en vue d'un règlement pacifique de l'invasion russe de l'Ukraine. John Lindon.
Narendra Modi, dont le pays entretient traditionnellement d'excellentes relations avec Moscou, est le premier chef du gouvernement indien à se rendre en Ukraine. Il est arrivé à Kiev par le train de nuit depuis la Pologne, itinéraire traditionnel emprunté par les délégations officielles, les avions civils étant cloués au sol en Ukraine depuis le début de la guerre il y a 2 ans et demi. Narendra Modi est venu discuter avec Volodymyr Zelensky des perspectives des règlements pacifiques du conflit ukrainien en cours, ainsi que de l'approfondissement de l'amitié entre l'Inde et l'Ukraine, selon un communiqué diffusé par son cabinet. L'Inde tente de maintenir un équilibre délicat entre la Russie, avec laquelle elle a noué de solides liens, et les nations occidentales avec lesquelles elle recherche un rapprochement pour contrer la Chine, son rival régional. Le premier ministre indien a évité de condamner explicitement l'invasion russe de l'Ukraine qui a commencé en février 2022 et l'Inde s'est toujours abstenue au moment des votes des résolutions de l'ONU pouvant être hostiles à Moscou.
Les États-Unis et 10 pays d'Amérique latine ont rejeté aujourd'hui la décision de la justice vénézuélienne de valider la victoire de Nicolas Maduro à l'élection présidentielle du 28 juillet, selon une déclaration commune publiée à Quito. L'Argentine, le Costa Rica, le Chili, l'Équateur, le Guatemala, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, l'Uruguay et les États-Unis indiquent rejeter catégoriquement l'annonce du tribunal suprême de justice du Venezuela qui indique avoir conclu une prétendue vérification des résultats du processus électoral. Et puis, la France restait aujourd'hui sans perspective claire d'un gouvernement après une journée d'entretien entre Emmanuel Macron et les principales forces politiques du pays. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La RDC a inauguré hier à Kinshasa le plus grand centre de données du pays soutenu par un investissement de 30 millions de dollars visant à promouvoir l'inclusion numérique. Situé à Limete, le Raxio Data Center de 2 étages s'étend sur plus de 1500 mètres carrés. Il peut accueillir 400 racks et fournir 1,5 mégawatts à l'équipement des clients. Le plan national du numérique en RDC vise à faire de la numérisation expansive un catalyseur de la croissance économique et de l'inclusion sociale. La RDC marque ainsi l'ouverture de la 4e installation de Raxio en Afrique. 1,5 MW est la capacité inaugurale la plus importante du groupe à ce jour. Depuis l'ouverture de son premier centre de données en Ouganda en 2021, Raxio s'est aussi étendu cette année à l'Éthiopie et au Mozambique. D'autres centres de données seront bientôt opérationnels en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et en Angola. Le Kenya va construire sa première centrale nucléaire d'ici 2034, a annoncé hier le gouvernement. Les médias kényans estiment le coût de la centrale de 1000 MW à plus de 3,8 milliards de dollars. Le projet vise à accroître la capacité énergétique du pays, réduire les émissions de CO2 et créer des emplois. Le Kenya génère une grande partie de son énergie à partir de sources renouvelables, notamment géothermiques, hydroélectriques, éoliennes et solaires. Le pays accueille la semaine prochaine le 2e sommet des États-Unis-Afrique sur l'énergie nucléaire.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Football, Manchester City annonce le retour de son ancien capitaine, Ilkay Gundogan.
Le milieu allemand a effectué son retour à Manchester City un an après l'avoir quitté pour le FC Barcelone, a annoncé ce vendredi le club anglais. Le joueur de 33 ans a également gagné 5 titres en Premier League avec les Citizens de Pep Guardiola durant son premier passage entre 2016 et 2023 avant de rejoindre le Barça l'été dernier à l'expiration de son contrat. Il a porté le maillot bleu ciel à 304 reprises avec 60 buts à la clé, dont deux lors de la finale de la Coupe d'Angleterre remportée 2-1 en 2023 contre Manchester United. Il a aussi remporté la Ligue des Champions comme capitaine en 2023. Le futur numéro 19 a signé un contrat d'un an avec le club, a précisé la formation du Nord-Ouest de l'Angleterre, quadruple championne d'Angleterre en titre.
Jude Bellingham blessé, le Real Madrid en quête d'équilibre.
Après un match nul décevant à Mallorca en but partout, le Real Madrid devrait retrouver de l'équilibre en attaque face à Valladolid dimanche, sans doute sans Bellingham blessé. La rencontre marquera également la première de Kylian Mbappé au Bernabeu pour une journée magnifique selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Selon la presse espagnole, Jude Bellingham pourrait être absent un mois, information non confirmée par le Real Madrid qui évoque dans un communiqué une lésion musculaire à la jambe droite après un coup reçu à l'entraînement.
Athlétisme, meeting de Ligue de Diamant de Lausanne en Suisse.
Fraîchement sacré champion olympique à Paris à tout juste 20 ans, le jeune Kenyan Emmanuel Wanyonyi s'est rapproché à 20 cm du record du monde du 800 mètres de son compatriote David Rudisha hier jeudi. En 1 minute 41 secondes 11, Wanyonyi est devenu le 2e meilleur performeur de l'histoire du double tour de piste derrière Rudisha. Il s'est imposé devant le Canadien Marco Arop et le Français Gabriel Tual. Devenu le premier Africain champion olympique du 200 mètres au Stade de France, le Botswanais Letsile Tebogo a montré qu'il avait encore du jus même après son retour triomphal et festif au pays En relâchant visiblement son effort, il a dominé le demi-tour de piste en 19 secondes 64, son troisième meilleur chrono sur la distance.
La Tunisienne Ons Jabeur, forfait pour l'US Open.
La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a déclaré forfait pour l'US Open en raison d'une blessure persistante à l'épaule, ont annoncé jeudi les organisateurs. Actuellement classée 17e joueuse mondiale, Jabeur avait disputé la finale du tournoi new-yorkais en 2022.
Page de sport VO Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, ici VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Un mois à peine après que le président Joe Biden a annoncé qu'il ne se représenterait pas, Kamala Harris a accepté d'être la candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Elle a opposé son bilan et sa vision à ceux de son rival républicain, l'ancien président Donald Trump. Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, revient sur la dernière soirée de la Convention nationale du Parti démocrate à Chicago, dans l'Illinois. Le récit est de Gabi Dorsil.
Pour cette dernière soirée, des prestations musicales captivantes ont eu lieu, notamment celle de Pink et l'hymne national chanté par le groupe de country The Chicks.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam.
Mais Kamala Harris a été la star de la soirée.
Au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut être écrite que dans la plus grande nation du monde, j'accepte votre nomination à la présidence des États-Unis d'Amérique.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Harris a raconté sa vie personnelle, la reliant aux expériences des électeurs de la classe moyenne.
Nous sommes en train de tracer une nouvelle voie, une classe moyenne forte et en pleine croissance. Car nous savons qu'une classe moyenne forte a toujours été essentielle au succès de l'Amérique et que la construction de cette classe moyenne sera un objectif déterminant de ma présidence.
Elle a souligné son expérience en tant qu'ancienne procureure, conformément à la stratégie de son parti pour contraster avec le candidat républicain Donald Trump qui a été condamné par la justice.
Guilty.
Comme beaucoup d'autres intervenants, elle a mis en garde contre un document décrivant des politiques d'extrême droite attribuées à Trump.
Et nous savons à quoi ressemblerait un second mandat de Trump. Tout est décrit dans le projet 2025, rédigé par ses plus proches conseillers. Et son but est de ramener notre pays vers le passé. Mais l'Amérique ne reviendra pas en arrière.
We are not going back.
Dans la salle, les applaudissements ont fusé, mais l'ancien président dément. À l'extérieur, des rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu tous les jours. Les manifestations n'ont pas modifié la position de Harris sur la guerre à Gaza. Tout en soulignant l'importance de l'aide aux Palestiniens et de leur protection, elle a réaffirmé son soutien à la sécurité d'Israël. Elle a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la recherche d'une solution à deux États. Gaza est d'ailleurs le seul point de désaccord des démocrates. Sur environ 4700 délégués, 270 ont signé une pétition exigeant que les États-Unis cessent d'armer Israël. Le discours de Harris est intervenu juste un mois après que le président Joe Biden a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle.
Joe, je suis submergée de gratitude. Ton bilan est extraordinaire, comme l'histoire le montrera, et ton caractère est une source d'inspiration. Doug et moi t'aimons, toi et Jill, et nous vous sommes éternellement reconnaissants.
Pendant que Kamala Harris s'exprimait, Donald Trump a cherché à attirer l'attention en se rendant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et en organisant un événement sur les médias sociaux. Mais rien n'a entamé l'enthousiasme des délégués. Sam Hoodis est de New York.
Kamala a expliqué exactement ce qui est en jeu pour ce pays. Nous portons tous le drapeau américain. Nous avons tous des États-Unis en nous. Et c'est pour une raison, parce que c'est un combat pour ce pays.
Son colistier Tim Walz a rejoint Kamala Harris sur scène pour clôturer la convention à 74 jours de l'élection.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a débloqué jusqu'à 10 millions de dollars américains pour la riposte au Mpox. Le pays a déjà enregistré près de 600 décès et attend le vaccin. Eddie Sango a joint à Kinshasa le ministre de la Santé de la RDC, Samuel Roger Kamba.
Nous sommes à peu près à 18 000 cas au total depuis le début de l'année, hein, en sachant que l'année dernière, en 2022, on était autour de 14 000 quelque chose, et là, on est autour de 18 000 au mois d'août. On a à peu près 600 décès au total. Les provinces les plus touchées, c'est toujours les grandes zones qu'on avait, la zone du nord, donc de la province de l'Équateur, et surtout maintenant, la zone de l'Est, où il y a beaucoup de déplacés de guerre, qui malheureusement entrent dans des zones où la maladie pouvait évoluer avant sans nécessairement être en contact avec des personnes non immunisées. Et maintenant, avec les déplacés de guerre, les déplacés à cause de l'insécurité, on a plus de gens touchés à l'est du pays. On a toujours les trois modes de circulation de virus. Le mode de contact avec les animaux, qui est de moins en moins important. Le mode de contact entre personnes, par contact physique. Et surtout, et c'est ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est le mode transmission sexuelle. Et donc, on va plus toucher des personnes, donc les travailleurs du sexe, et des personnes qui sont effectivement à risque dans ces conditions-là.
Quelle est la riposte que vous avez préparée? Quels sont les moyens que vous avez mis à la disposition pour...
Alors la réponse, vous savez, la RDC est habituée à gérer les épidémies. Donc nous avons toutes les équipes qui sont mobilisées pour cette riposte-là. Nous avons aussi reçu tous les experts de CDC Afrique qui sont ici avec nous. Et on a trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'information, parce que c'est quand même une maladie infectieuse, donc une maladie évitable. Donc c'est l'information. Donc on a une grosse campagne d'information qui est organisée, qui est en train de se mettre en place. Deuxième mode, nous avons lancé nos relais communautaires, c'est-à-dire les travailleurs communautaires qui, pour faire une recherche active de cas d'ailleurs, si nous signalons beaucoup de cas, c'est parce que nous les recherchons activement. Vous savez, il y a des pays qui ont dit qu'ils n'avaient pas de cas, mais dès lors qu'ils ont commencé à chercher, ils en ont trouvé. Mais nous, comme on cherche activement les cas, effectivement, on les notifie et donc on le fait. Et troisièmement, c'est le vaccin, bien sûr, qu'on n'a pas encore reçu. Je pense que les premiers lots vont arriver la semaine prochaine et donc on devrait vacciner aussi les gens. Bien entendu, après, c'est la prise en charge des malades.
On parle de 6 à 10 millions de dollars que les gouvernements ont mis à la disposition de cette riposte. Quels sont les autres moyens? Est-ce que c'est suffisant?
C'est pas suffisant, bien sûr. Vous imaginez bien que rien que les vaccins, nous, pour l'instant, on a fait un plan à peu près 3 500 000 doses de vaccins. Et rien que ça, ça nous amène à plusieurs centaines de millions de dollars, connaissant le prix de la dose de vaccin qui est très élevé, autour de 600 millions de dollars. Donc vous comprenez que ça, c'est pas la charge de la RDC seule. Je pense que c'est une crise du continent africain, mais qui devient de plus en plus une crise que l'OMS, bien entendu, avec raison, a déclarée comme une urgence de portée internationale et où tout le monde doit participer.
Docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la RDC.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Enlevé le 19 juillet devant son magasin à Libreville, Steve Akam, connu sous le nom de Ramon Kota sur les réseaux sociaux, n'avait plus donné de signe de vie. Mi-août, l'ONG Human Rights Watch lance l'alarme et dit craindre la disparition forcée de sept activistes camerounais qui critiquaient le régime de Paul Biya sur TikTok. Mardi, son avocat apprend que Ramon Kota est détenu au tribunal militaire de Yaoundé, où il a pu le rencontrer. Claire Morin-Jibou a joint Maître Hippolyte Meli Tiakwang, qui revient sur l'état de son client.
Il m'a accueilli avec un sourire, mais il était assis, il ne pouvait pas se lever. Donc ça, c'est le premier contact. Il m'a serré la main avec ce sourire et il m'a indiqué qu'il avait le côté gauche en voie de paralysie, qu'il ne sentait plus le fonctionnement de ce côté gauche. Et puis, il avait des troubles visuels dus au fait qu'il avait reçu des projecteurs de lumière avec de fortes intensités. Ces projecteurs lui ont donné des troubles visuels et qu'il avait des blessures dues au fait qu'il avait été menotté au pied et menotté à la main. et que les éléments de sécurité ou bien de l'armée qui l'avaient appréhendé passaient leur temps à danser sur ces menottes pour lui faire du mal.
Alors, vous avez pu consulter également le dossier du médecin militaire qu'il a pu rencontrer, qui lui a prescrit un certain nombre de médicaments à la suite de ses tortures.
Exact. Il avait des douleurs. Je pense que le médecin, le carnet présentait que le médecin a prescrit une série de médicaments. Mais il m'a dit que les médicaments qui lui ont été portés dans sa cellule n'avaient aucun rapport avec cette prescription.
Autre problème de ce dossier, Ramon Kota a été arrêté au Gabon. Il est aujourd'hui au tribunal militaire de Yaoundé. Son arrestation et son extradition sont-elles légales ?
Non, ce n'est pas légal. Il a été arrêté par les forces de police gabonaises. Il a fait 3 jours entre leurs mains et il a été conduit au petit matin du 4e jour à la frontière et livré comme un colis à la police camerounaise. Il a indiqué qu'il y avait au moins 15 commissaires qui l'attendaient et qui l'ont immédiatement embarqué pour Yaoundé. Donc, nous pensons que la procédure n'est pas légale. Eu égard aux dispositions du code de procédure pénale gabonais que nous avons consulté, et au code de procédure pénale camerounais. La procédure d'extradition est essentiellement judiciaire. Elle répond à des normes de procès équitable. Elle répond au respect des droits de l'homme. Le ministère d'avocat est obligatoire et il devrait avoir son acte de consentement pour qu'il soit jugé pour quelque fait que ce soit, soit au Cameroun, soit au Gabon. Donc il n'y a rien de tout ça. Il n'a comparu devant aucune juridiction. L'extradition était essentiellement policière et militaire.
C'était Maître Hippolyte Méli Tiakwang, coordinateur du collectif des avocats de Ramon Kota.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le trophée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire a fait escale dans les studios de VOA Afrique ici à Washington avant de repartir vers Abidjan. Eric Mandirakiza s'est entretenu avec le ministre délégué auprès du Premier ministre des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch.
À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, notre ambassadeur à Washington a exprimé le vœu que la Coupe soit présentée à la diaspora ivoirienne, aussi bien à Washington qu'à New York. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour répondre à l'invitation qu'il nous a lancée. Je pense que c'est des moments de joie également pour vous, qui avez bien voulu recevoir la Coupe ici à Washington.
Et comment cette tournée contribue-t-elle à renforcer, disons, le sentiment de fierté nationale et d'unité parmi vos compatriotes à l'étranger?
Oui, ils se sont mobilisés comme un seul homme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour porter les éléphants en prière jusqu'à ce qu'ils réalisent le troisième sacre. C'était un moment fort où la cohésion s'est exprimée. Et l'enseignement que nous tirons, c'est que lorsqu'un peuple est uni autour d'un idéal, le défi peut être toujours relevé.
Comment envisagez-vous de développer des partenariats solides avec les universités, les organisations sportives américaines pour atteindre cet objectif, en particulier après cette tournée aux États-Unis?
D'abord, la Côte d'Ivoire a acquis un leadership en matière de réalisation d'infrastructures sportives grâce à la vision, à la grande vision du président Alassane Ouattara, qui a réalisé des stades au style architectural ultra moderne. Ces infrastructures permettent non seulement à la jeunesse ivoirienne, mais également à la jeunesse africaine, de mettre à profit ces infrastructures pour développer certaines pratiques sportives. C'est justement dans le prolongement de cette vision que nous sommes en train de multiplier les partenariats pour renforcer la coopération avec des entités engagées dans le développement du sport, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, mais je pense que le meilleur modèle, c'est celui des États-Unis.
Vous avez mentionné tout à l'heure l'ambition du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un centre de rayonnement sportif en Afrique. Quelle est votre vision de son héritage dans ce domaine et pensez-vous qu'il envisagera de se représenter aux prochaines élections pour poursuivre cet objectif?
À ce niveau, il faut dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. S'il décide de continuer, c'est tout à fait normal. Il a fait déjà très bon travail, il peut continuer. Mais ce sur quoi je souhaitais insister, c'est d'abord la qualité des infrastructures. Quand vous regardez les infrastructures, quand vous entrez dans ces stades, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Et souvent, vous vous demandez bien si vous êtes en Côte d'Ivoire.
Le ministre ivoirien délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch. L'intégralité de cet entretien à suivre sur voafrique.com et sur notre page YouTube. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.